Rendez-vous compte, bonjour et bienvenue dans l'émission des amoureux du conte, de la parole et des mots. Une émission qui a lieu tous les 15 jours, une émission où on raconte et surtout pas où on se la raconte. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Rendez-vous Compte, une édition d'hiver. Eh bien oui, l'hiver, ça y est, on a les deux pieds, les deux mains dedans. Certains d'entre vous ont peut-être déjà le bout des pieds dans la neige, voire plus. Un hiver un peu bizarre. Eh oui, madame, il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. Des violettes en plein hiver, des violettes au mois de janvier. Ben oui, j'en ai trouvé chez moi la semaine dernière, avant qu'il se mette à faire un peu froid. Et voilà que... elle gèle pour laisser la place à des températures qui descendent bien, bien plus bas que zéro. Non mais on ne sait plus où on campe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous blottir au coin du feu. Pourquoi pas pour se laisser bercer par le temps, se balancer dans un rocking chair, écouter des histoires par exemple. Bah tiens, c'est une bonne idée ça, on pourrait faire ça par exemple. On va essayer. Moi, je vous propose de me prêter vos oreilles délicates. Je vous les rendrai à la fin de l'émission. J'en prendrai soin tout au long de l'émission. Et j'essaierai d'y mettre des petits mots doux, des petits mots qui font rire, des petits mots qui résonnent délicatement à l'oreille. Et puis, des mots qui piquent des fois, des mots qui cassent, des mots qui coupent. Et oui, il faut de tout pour faire un monde. Alors, si vos oreilles sont prêtes, eh bien, on va partir ensemble au pays des histoires, pour une histoire d'hiver. Et cric, et crac, l'histoire peut sortir du sac. Il était une fois, dans un pays où les étés sont chauds et les hivers très très froids, une jeune fille. Cette jeune fille-là, elle s'appelait Marouchka. Marouchka vivait avec sa belle-mère et avec sa demi-sœur, la fille de sa belle-mère. La belle-mère de Marouchka la maltraitait, la battait même souvent, lui criait dessus à longueur de temps, alors qu'elle était un amour pour sa propre fille, elle la chérissait, elle la laissait vaquer à ses occupations, s'amuser tout au long de la journée. Bref, cette pauvre Marouchka, une vraie cendrillon. Marouchka était obligée de travailler tout le long de la journée. Il fallait qu'elle fasse tout dans la maison, qu'elle aille chercher le bois, qu'elle fasse la cuisine, qu'elle fasse le ménage, qu'elle lave les vêtements, qu'elle repasse, etc., etc. Malgré tout ça, Marouchka était d'une nature plutôt joyeuse. Quant à Olena, sa sœur, elle, bien qu'elle ne fasse rien de la journée, qu'elle ait le droit de faire absolument ce qu'elle veut, eh bien, elle était plutôt acariâtre, plutôt de mauvaise humeur. À quoi elles ressemblaient ces deux-là ? Eh bien, c'était pas dur. Marouchka, elle avait des grands cheveux bruns nattés en tresse qui lui descendaient jusque dans le bas du dos. Elle avait des grands yeux noirs, la peau fine, la peau toute douce. Elle avait les yeux rieurs, un sourire un peu triste au coin du visage. Bref, elle était belle comme un cœur. Olena, elle, était, ma foi, plutôt moche. Olena, elle était grosse. Évidemment, à force de rien faire de la journée et de se gaver de sucreries, ça peut se comprendre. Elena avait un espèce de rictus qui lui servait de sourire, qu'elle n'utilisait pas très souvent. Olena, elle avait la peau rougeaude, assez grasse. Elle avait les cheveux gras aussi. Bref, voilà à quoi elles ressemblaient toutes les deux. Les années passaient, comme elle savait si bien le faire, et Marouchka devenait de plus en plus belle au fil des années. Elle devenait une vraie belle jeune fille. Tandis qu'Olena, la goinfre, elle avait le teint de plus en plus fade et elle grossissait à vue d'œil. Et ça, ça manquait pas d'inquiéter sa mère. Non pas qu'elle se fasse du souci pour la santé de sa fille, non, loin de là. Mais la femme se disait qu'elle arriverait jamais à marier Olena, sa fille, tant qu'elle aurait Marouchka, aussi jolie que ça, dans les parages. Et ça, pour cette femme, pour cette mère, c'était un vrai problème. Alors un jour, à force d'en discuter toutes les deux, la mère et Olena, la fille, elles sont tombées d'accord pour décider de se débarrasser de Marouchka. Elles ont pris leur temps. Elles ont attendu le retour de l'hiver, un hiver bien froid, comme tous les autres dans ce pays-là. Et puis, un jour, le moment venu, Olena s'est adressée à sa sœur Marouchka. « Va dans la montagne, Marouchka, et rapporte-moi un bouquet de violettes. »« Des violettes ?» a dit Marouchka. « Des violettes en plein mois de janvier. »« Mais enfin, c'est pas possible, j'en trouverai jamais. »« Fais ce que je te dis !» s'est mise à hurler Olena. « Je ne supporte plus l'hiver, il me faut absolument des violettes. » À son tour, la belle-mère est arrivée et a dit la même chose à Marouchka. Elle l'a menacée en lui disant que si elle revenait sans les violettes, elle trouverait la porte close et que c'était pas la peine d'essayer de rentrer. Et la femme et la jeune fille ont poussé Marouchka dehors, dans la neige, elles ont refermé la porte derrière elle. Et voilà la pauvre Marouchka qui s'est retrouvée là, dans la neige. Comme deux ronds de flanc, on pourrait dire. Et bah, qu'est-ce qu'elle avait à faire d'autre ? Elle s'est mise en route. Elle a marché longtemps, la mort dans l'âme. Elle se demandait comment elle allait bien pouvoir faire pour trouver des violettes dans toute cette neige. Elle a marché, marché, marché. Elle a traversé la forêt. Et puis, elle a marché vers la montagne, là où elle savait qu'il y avait des violettes quand le printemps arrivait. Mais là, des violettes, il n'y en avait pas. Il n'y avait que de la neige. De la neige partout. De la neige toute blanche. Et des plaques de verglas. Et puis, le soir a commencé à tomber. Il s'est mis à faire de plus en plus froid. Et Marouchka a eu tellement froid, elle s'est dit qu'elle allait se faire prendre par la nuit et elle s'est demandé si elle verrait à nouveau le jour se lever. Elle grimpait comme ça dans la montagne, elle marchait le plus vite qu'elle pouvait pour avoir le moins froid possible, quand tout à coup, elle a vu au loin une espèce de petite lumière, comme une lueur faible là qui brillait. Elle s'est approchée. Et là, elle s'est retrouvée devant un curieux spectacle. Là, derrière un rocher, dans un creux de la montagne, il y avait un grand feu, comme un grand feu de joie avec des hautes flammes qui éclairaient tout autour du feu un cercle de pierres. Ces pierres, elles faisaient comme des sièges. Il y en avait 12. Et sur chaque pierre, on voyait assises des silhouettes silencieuses. Des silhouettes vêtues d'une sorte de grand manteau gris. Un grand manteau qui leur allait des pieds jusqu'à la tête. Encapuchonnés, on voyait à peine leur visage. Et sur la plus grande des pierres, qui était taillée un peu comme en forme de trône, il y avait un vieil homme, encapuchonné lui aussi, vêtu de ce grand manteau gris. Un vieil homme au visage tout ridé. Il avait une grande barbe blanche qui tombait presque jusqu'à terre, et dans sa main, il tenait un bâton tout ciselé, tout sculpté, un bâton en bois. Magnifique. Marouchka était là dans un coin. Elle s'était rapprochée. Elle était vraiment tout près maintenant. Elle était un peu cachée derrière un rocher. Elle regardait ce spectacle. Elle était impressionnée. Et puis, toutes ces ombres avec le feu, ça faisait un peu peur. Mais elle était tellement désespérée qu'elle a fini par s'approcher du feu. Elle s'est dirigée vers le vieillard qui lui semblait être le chef et poliment elle lui a dit « Excusez-moi, est-ce que vous me permettez de venir me réchauffer auprès de votre feu ?» Alors doucement, le vieil homme a tourné la tête vers Marouchka. « Mais qu'est-ce qui t'amène donc ici, dans ce lieu secret, dans ce lieu retiré par un temps pareil ?» Alors que la nuit est déjà tombée ? Quand il a demandé ça, sa voix ressemblait au grincement de la glace sur une rivière gelée. Alors Marouchka lui a tout raconté. Elle lui a raconté sa belle-mère, sa sœur, qui l'avait envoyé ramasser des violettes. Des violettes ? Pff ! Aucune violette ne fleurit tant que janvier mène la danse, a répondu le vieillard. Dans ce cas, a dit Marouchka, ce n'est même plus la peine que j'essaye de rentrer à la maison, et je vais mourir de froid. Quand il a entendu ça, le vieil homme a eu tellement de peine pour Marouchka, il est descendu de son trône, et il a appelé. Il a appelé quelqu'un dans l'assemblée. Viens, sœur Avril, et sème des violettes sur ton chemin. Et en même temps qu'il disait ça, il a agité plusieurs fois son bâton au-dessus du feu. Alors, une des silhouettes vêtue de gris et encapuchonnée s'est dressée. Elle a rejeté son manteau. Et là, Marouchka a aperçu une fille. Une jeune fille au visage doux. Et c'est cette jeune fille qui est venue prendre place sur le trône. Le vieil homme lui a tendu le bâton. Alors Avril, puisque c'était elle, a tendu le bras. Et elle a fait tourner le bâton 3 fois au-dessus du feu. L'air tout à coup est devenu tout tiède. Et la neige, sur un petit espace, s'est mise à fondre. Et là, dans l'herbe verte, les violettes sont apparues. Il y en avait partout, il y en avait un tapis comme elles font les violettes, vous savez. Alors Avril a dit à Marouchka, prends-en, prends autant de fleurs que tu veux, mais ne raconte surtout à personne où tu les as trouvées. Oh merci, merci Avril la douce, a dit Marouchka. Et alors, elle a ramassé dans les poches de son tablier autant de violettes qu'elle a pu en prendre. Mais avant même que son tablier soit rempli, Janvier avait repris sa place sur le trône et la neige déjà recommençait à tomber. Encore une fois, Marouchka a remercié. Elle s'est inclinée devant tous ces gens assis sur des pierres autour du feu. Et elle est repartie vite, aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Elle s'est dépêchée de rentrer chez elle et là, quand elle est arrivée, elle a frappé à la porte. Alors au premier étage, Olena est apparue à la fenêtre. « Qu'est-ce que tu veux ?» elle a demandé d'un air renfrogné, comme elle avait toujours un air renfrogné, il faut dire. « J'ai apporté des violettes, » a répondu Marouchka, et elle a ouvert grand son tablier pour qu'Olena puisse les voir. Aussitôt, on a entendu une grosse cavalcade dans l'escalier et la porte s'est ouverte à toute volée. Olena a arraché les fleurs des mains de Marouchka. « Où tu les as trouvées ? » a-t-elle demandé. Alors, Olena a pris les fleurs et elle a demandé à sa demi-sœur où elle les avait trouvées. Oh, elle a répondu évasivement, Marouchka, elle a dit, là-haut, dans la montagne. Bon, la sœur était bien contente d'avoir des violettes, mais elle avait toujours pas réussi à se débarrasser de sa demi-sœur. Alors, moins d'une semaine plus tard, la mère et la fille, Olena, à nouveau, se sont concertées toutes les deux. Elles se sont demandé comment elles allaient faire pour se débarrasser de Marouchka, encore une fois. Et là, c'est à nouveau Olena qui a une idée. Elle s'est dit, tiens, on était toujours en plein hiver, au plein cœur de l'hiver. Elle s'est dit, tiens, je voudrais manger des fraises. Alors, elle a appelé Marouchka. Marouchka, maintenant tu vas aller me chercher des fraises. Marouchka était tétanisée, des fraises. Mais comment veux-tu que je trouve des fraises en plein hiver? Vas-y et ne discute pas. J'ai envie de manger des fraises, il m'en faut. Tu n'as qu'à aller m'en chercher, si tu n'en trouves pas, c'est même pas la peine d'essayer de rentrer. Et à nouveau, les deux, la femme et la jeune fille, ont mis Marouchka dehors. Et une fois encore, comme la fois précédente, elle s'est retrouvée, les pieds dans la neige, peu de temps avant la tombée de la nuit, avec pour mission de trouver des fraises. Mission impossible. On était en hiver. Alors Marouchka a mis les mains au fond des poches de son tablier et, en traînant les pieds, elle est partie. Mais là, elle n'a pas trop erré. Elle savait où elle allait. Elle est repartie à ce petit endroit dans la montagne où elle avait vu ces gens, où elle avait rencontré les 12 mois, et elle a marché d'un bon pas. Quand elle est arrivée, ça l'a rassurée, elle a vu la lumière du feu, depuis loin déjà. Alors elle s'est approchée, doucement, elle a hésité un peu, elle se disait quand même, elle allait les embêter. Et puis, elle s'est approchée, et là, elle n'a pas eu besoin de parler. Le vieillard l'a vu, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais encore toi? Qu'est-ce que tu cherches ici? Il fait bientôt nuit? Alors Marouchka, d'un pied sur l'autre, elle a dansé, elle a dit, je suis vraiment désolée, mais ma sœur cette fois-ci et ma belle-mère m'ont demandé de leur trouver des fraises. Des fraises, a dit le vieil homme, et sa voix grinçait, sa voix couinait. Mais quand la petite à nouveau a dit que si elle rentrait bredouille, elle allait mourir de froid, qu'on la laisserait pas rentrer chez elle. Et ben à nouveau, Janvier s'est levé de son trône et puis il a appelé. Viens, viens frère Juillet. Et là, on a vu un capuchon tomber, un manteau se défaire et c'est un beau jeune homme couronné d'une couronne de fruits qui s'est approché. Il avait de longs cheveux blonds qui tombaient sur ses épaules et des grands yeux bleus. Il s'est approché, en souriant, il a regardé Marouchka, il a pris des mains du vieil homme le bâton, il s'est assis sur le trône et là, il a fait tourner 3 fois le bâton au-dessus du feu. Il avait à peine fini de faire ça, que la neige avait fondu, là aux alentours sur quelques mètres, et il y avait un tapis de fraises des bois qui tapissait le sol, qui tapissait l'herbe à la place de la neige. Maroushka n'en croyait pas ses yeux. Frère Juillet lui a dit « Vas-y, prends tout ce que tu voudras ». Alors Maroushka a pris des fraises, elle en a mis dans ses mains, elle en a mis dans ses poches, elle a remercié Frère Juillet et lui, il est reparti du trône comme il était venu, il a rendu le bâton à Janvier. À peine Janvier était-il à nouveau assis sur son siège, que la neige à nouveau s'est mise à tomber à tout recouvert. Maroushka n'a plus qu'à remercier et repartir en courant chez elle avant qu'il fasse trop froid. Quand elle est arrivée, elle a tambouriné à la porte. Et là, Olena, énervée, a ouvert la porte d'un coup sec. « Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai dit que c'était pas la peine de revenir sans les fraises. » Et là, Maroushka a tendu les mains. Et dans ses mains, elle avait plein de fraises des bois. Il y avait l'équivalent d'au moins 2 bols. Là, les yeux d'Olena se sont mis à briller, gourmande comme elle était celle-là. Elle a arraché les fraises des mains de Maroushka et elle s'en est empiffrée. Elle en avait plein les joues, elle avait du rouge, elle avait du rouge plein les joues, sur les dents. Et elle mangeait, et elle mangeait, et elle mangeait. Maroushka discrètement est rentrée. Et quand Olena a fini de manger, ma foi, elle était repue, elle est allée se coucher. Mais dès le lendemain, eh bien, ça n'avait rien changé à leur problème, à elle et à sa mère. Et oui, elle n'avait toujours pas réussi à se débarrasser de Maroushka. Et cette fois-ci, c'est la mère qui a une idée. Elle a dit à Olena, « Bah tiens, on va lui demander d'aller chercher des pommes cette fois-ci. » Alors, toutes les deux sont arrivées près de Maroushka et elles lui ont dit « Eh bien maintenant, tu vas aller nous trouver des pommes. » « Des pommes ? Mais les pommes, c'est à l'automne, » a dit Maroushka. « Là, on est fin janvier, comment voulez-vous que je trouve des pommes ?»« Tu te débrouilles, » a dit la mère. « Et si tu les trouves pas, même pas la peine de rentrer, tu trouveras la porte close. » Bon, Maroushka avait compris que c'était pas la peine de discuter. Elle a enfoncé sa tête dans sa capuche, rentré sa tête dans les épaules. Elle est sortie dehors dans le grand froid, dans la neige, et elle a commencé à marcher. Elle a marché vers la montagne, vite, de plus en plus vite. Autant vous dire qu'elle savait où elle allait. Au bout d'un moment qu'elle marchait, elle a distingué à nouveau la lueur rassurante là-bas derrière le rocher. Alors elle s'est approchée, presque en courant. Elle était embêtée, elle s'est dit quand même, j'arrête pas de venir les voir, je vais vraiment les embêter à force, mais elle n'avait pas le choix. Alors elle s'est approchée à nouveau du vieillard de Janvier qui trônait toujours. Et après qu'il lui ait demandé ce qu'elle faisait encore là, et sa voix chuintait comme une tempête d'hiver, elle a dit, ben voilà, cette fois-ci, ma belle-mère et ma sœur m'envoient chercher des pommes. Je sais vraiment pas comment faire pour en trouver. Le vieil homme, il n'a pas eu besoin de demander de détails. Il savait que si elle revenait sans, elle resterait dehors. Alors il s'est levé à nouveau de son siège et il a appelé, sœur Octobre, viens. On a vu quelqu'un se lever dans l'assemblée. On a vu à nouveau un capuchon et un manteau tomber. Et là, Maroushka a vu une petite femme, toute petite, toute rondelette, les joues bien rouges. Elle avait un sourire qui illuminait tout son visage, des petits yeux rieurs. Elle s'est approchée du vieil homme, il lui a tendu le bâton, elle s'est assise sur le trône et elle a fait tourner 3 fois le bâton au-dessus du feu. Et là, la neige d'un coup s'est mise à fondre, juste là, alentour, sur quelques mètres, et les pommiers à nouveau ont été en feuilles. Et dans les pommiers, il y avait des pommes. Il y avait plein de pommes. À l'heure sœur Octobre, gentiment, a dit à Maroushka, « Prends, secoue les arbres et prends ce dont tu auras besoin. » Maroushka s'est dirigée vers un arbre. Elle a secoué, mais pauvrette, elle était à bout de force. Il n'y a qu'une pomme qui est tombée. Alors elle s'est dirigée vers le pommier d'à côté. Elle a secoué, mais je vous le dis, elle avait vraiment plus de force. Il y a une autre pomme qui est tombée. Et à nouveau, janvier a repris son trône et à nouveau la neige s'est remise à tomber. Les feuilles de l'arbre ont disparu. Tout a été recouvert de neige en un instant. Marouchka a remercié Sœur Octobre qui a repris sa place dans le cercle et elle a mis les deux pommes dans chacune de ses poches et elle est redescendue en courant chez elle. Là, c'est sa sœur qui lui a ouvert, énervée, comme à l'habitude. Alors, elles sont où ces pommes ? Timidement, Marouchka a sorti une pomme après l'autre de ses poches. Et sa sœur est rentrée dans une colère monstrueuse. « Comment ça, deux pommes ? Tu m'en as ramené que deux ? Je suis sûre que c'est toi qui les as toutes mangées en route. T'as mangé les meilleures et tu m'as laissé les deux plus petites. » Et Olena a appelé sa mère. Et la mère est arrivée. Et toutes les deux, elles se sont jetées sur la pauvre Marouchka et elles ont commencé à la rouer de coups. Au bout d'un moment, elles se sont arrêtées et... la mère a dit à sa fille « Eh bien, tant pis, on va aller les trouver, nous, ces pommes, et on va les ramasser. » Et les voilà parties toutes les deux avant que Marouchka ait pu leur dire quoi que ce soit. Et elles ont suivi les traces de pas de Marouchka dans la neige. Elles ont marché, et elles aussi, à leur tour, elles sont arrivées à cet endroit où il y avait un feu et puis 12 sièges de pierre avec des gens encapuchonnés assis là. Et puis, comme si de rien n'était, elles se sont mises là, à côté du cercle, et elles ont commencé à discuter de choses et d'autres, comme si elles étaient seules, et puis à se moquer d'eux, et là, le vieillard a froncé les sourcils. Il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire là ? Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Elles ont répondu « Mêle-toi de tes affaires !» Et là, ça lui a pas plu du tout. La mère a repris la conversation de sa voix de crécelle avec sa fille et on a vu Janvier faire une petite moue, avoir un espèce de rictus. Son visage s'est assombri et cette fois-ci c'est lui qui a levé son bâton et qui l'a fait passer trois fois au-dessus des flammes. Aussitôt, les flammes se sont éteintes. Et un vent glacial est arrivé en gémissant. Ce vent a dévalé les pentes de la montagne. Et puis une tempête s'est mise à tomber du ciel. Dru, la neige s'est mise à tomber de plus en plus fort, de plus en plus dru. On ne voyait plus rien à 2 mètres devant soi. Effrayée, Olena a essayé de faire demi-tour pour rentrer chez elle. Et sa mère l'a suivie. Mais déjà, leurs traces de pas disparaissaient dans la neige. Elle se rappelait plus le chemin et les flocons tombaient, serrés, tellement serrés que bientôt les deux femmes ne pouvaient même plus voir leurs mains devant leurs yeux. Elles sont reparties en marchant sans savoir où. Elles étaient prises dans la tempête de neige. Peut-être qu'elles ont quitté le chemin. Peut-être qu'elles sont tombées dans un ravin. Peut-être qu'elles se sont retrouvées enfouies sous la neige profonde. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a plus jamais revu ni Olena, ni sa mère. Marouchka, elle, pendant ce temps-là, elle les attendait patiemment à la maison. Elle voyait la tempête de neige se lever. Elle s'inquiétait pour elle. Alors, comme elle les voyait parvenir, elle a décidé d'allumer une lanterne et de partir à leur recherche. Mais, je vous l'ai dit, c'était la tempête de neige et la neige avait recouvert toute la maison. Ça faisait un épais manteau blanc. Et toutes les portes et les fenêtres étaient bloquées. Marouchka ne pouvait plus sortir de la maison. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs jours. Il s'est passé quelques jours et quelques nuits avant que Marouchka puisse remettre le nez dehors. Et quand enfin elle a réussi à sortir, évidemment, elle a trouvé aucune trace des deux femmes. Elle a eu beau chercher. Et puis l'hiver est passé. Faut bien qu'il finisse par passer. Rassurez-vous, tous les hivers passent. Alors, la neige a fondu. Et lorsqu'est arrivé avril, avec ses violettes, puis juillet, avec ses fraises sucrées, Marouchka les a accueillis comme de vieux amis. Et puis l'été a laissé place à l'automne et c'est octobre qui est arrivé. Octobre a amené avec lui un beau jeune homme. Ce jeune homme-là, il voyageait de ferme en ferme pour trouver du travail à droite à gauche, parfois dans les pressoirs à cidre, parfois pour s'occuper des animaux, parfois au champ. Et puis, à force d'aller de ferme en ferme, de passer de village en village, eh bien, il est arrivé jusqu'au hameau où habitait Marouchka. Et quand il l'a vue, il en est tombé amoureux tout de suite. Et il faut croire que Marouchka aussi, parce que ce jeune homme, eh bien, il a décidé de rester avec elle pour cultiver la terre, pour s'occuper de la ferme avec elle. Ces deux-là, ils s'entendaient tellement bien que pas si longtemps après, ils se sont mariés. Et puis, bah, comme ça se passe souvent dans les histoires, ils ont eu des enfants. Marouchka a été une très bonne mère. Elle était douce, elle était sage. Et elle a enseigné à ses enfants que les mois passent et reviennent. Et que chaque mois, de juillet tellement chaud à janvier tellement froid, chaque mois arrive à son heure. Que chaque mois est notre ami. Et que de chaque mois, nous avons autant besoin et que nous pouvons chacun les remercier à juste titre pour ce qu'ils nous amènent. Et cric et crac, l'histoire retourne dans son sac. Et bien voilà, cette histoire s'appelle « Les 12 mois » et c'est un conte de Slovaquie. Donc voilà, effectivement, là-bas il y a de la neige et effectivement, en Slovaquie, on ne trouve pas de violettes en janvier. Faut dire que les histoires, elles sont vieilles, que le climat change, que les temps évoluent et que, va savoir, moi des violettes, j'en ai trouvé en janvier dans mon jardin. Qui sait ce qui se passe en Slovaquie, faudrait aller y faire un tour pour jeter un œil et savoir de quoi on parle. Alors Noël est passé, mais bon, un petit conte qui se passe à l'époque de Noël, mais sous d'autres cieux, là où il fait chaud, puisque ça se passe sur l'île de Mouréa. Et cric et crac, l'histoire peut sortir du sac. Sur l'île de Mouréa, dans une cabane toute délabrée, vivaient Teiki et son chien. Teiki, c'était un pêcheur, mais c'était le plus pauvre de tous les pêcheurs. Et vous savez pourquoi ? Ben parce qu'il était tellement vieux qu'il n'avait plus la force d'aller pêcher. Ni en pirogue, ni même avec son filet au bord du lagon. Alors, pour se nourrir, il n'avait que les noix de coco qui tombaient de l'arbre qui était à côté de sa maison. Alors il partageait avec son chien cette pauvre nourriture, les noix de coco, et c'est tout ce qu'ils avaient. Le chien, lui, il aimait tellement son maître qu'il restait avec lui jour et nuit. Et ils vivaient comme ça l'un près de l'autre, Teiki et son chien. Malgré tout, heureux d'être ensemble. Et Noël approchait. Teiki était triste comme tout. Un jour, il a dit à son chien, « Écoute, t'es bien malheureux d'avoir un maître comme moi. Cette nuit, ça va être la nuit de Noël. Et moi, ben, j'ai rien de bon à t'offrir, à manger. Tu devras te contenter d'un morceau de noix de coco, comme d'habitude, comme tous les jours de notre vie misérable. Tu sais, tu ferais mieux de me laisser. Pars, sauve-toi. Je te donne l'autorisation, tu peux t'en aller. Tu peux encore courir, toi. Va chercher un autre maître, plus jeune, qui te nourrira mieux. Mais le chien, au lieu de partir, lui, il léchait la main de son maître. Cette nuit-là, justement, la nuit de Noël, rôdait le chat Mimi. Mimi, il faut que je vous le présente, c'était le chat le plus laid de tous les chats de l'île de Mouréa. Il avait la queue tordue. Il était tout pelé, on aurait pu croire qu'il avait la gale. Mimi, c'était un genre de chat errant. Tout le monde le connaissait et tout le monde avait peur de lui. Parce que Mimi, c'était le plus rapide et le plus rusé des chats. Et surtout, c'était le plus voleur de tous les chats de l'île. Il volait tant qu'il pouvait. Il faisait que ça de la journée, en fait. Et même de la nuit. Il volait de la nourriture dans les cabanes. Il volait dans les pirogues. Il volait sur les marchés. Et tant pis s'il se faisait coincer la queue dans une porte. Et tant pis s'il se tordait l'oreille dans un filet. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que jusque-là, personne, jamais personne, n'avait réussi à l'attraper. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Les hommes le poursuivaient avec leur coupe-coupe, avec leur machette, pour le couper en morceaux. Les femmes le poursuivaient avec leur grande cuillère en bois, pour lui taper sur la tête. Bon, il s'était bien fait couper un bout de queue une fois. On lui avait bien fait une grosse bosse sur la tête un jour avec une cuillère. Mais ça l'avait jamais empêché de courir. Mimi, le chat voleur. C'était donc le soir de Noël. Dans toutes les maisons, on avait préparé des plats délicieux. Et personne n'avait envie de se faire voler le repas par Mimi. Alors tout le monde avait bien caché sa nourriture, fermé ses fenêtres et pour la première fois, Mimi n'arrivait pas à se trouver un dîner. Il avait déjà reçu des coups et son ventre était toujours vide. Mimi avait faim, il commençait à s'énerver. Et comme ça, à force de tenter sa chance, une maison après l'autre, il a fini par arriver à la vieille maison toute délabrée de Teiki. Alors tout doucement, il s'est glissé sans bruit à l'intérieur par la fenêtre entrouverte. Mais il a eu beau fouiller toute la maison, il n'a pas trouvé le moindre petit poisson. Il n'a pas trouvé quoi que ce soit à manger. Et il avait toujours aussi faim. Et voilà que tout à coup, il a aperçu le chien de Teiki. Oh ! A dit le chat, mais j'ai jamais vu un chien aussi maigre que toi. Pourquoi est-ce que tu restes dans une si mauvaise maison si on ne te nourrit même pas ? Le chien, stoïque, a dit qu'il préférait mourir de faim plutôt que d'abandonner son maître. Bah Mimi, il avait beau être un espèce de chat voleur à la mauvaise réputation, il a été ému quand il a entendu ça. Et il a dit au chien, « Écoute, entre animaux, on doit s'aider. Tu vois, ce soir c'est Noël, et ben je vais aller chasser pour toi un bon dîner, parce que je suis Mimi. » Le chat le plus rapide et le plus malin de toute l'île. Mais le chien, lui, à qui il a pensé, en premier, à son maître. Et il a dit à Mimi, « Tu sais, mon maître, il est plus à plaindre que moi. Regarde-le, il est là en train de dormir, dans un coin, il n'a même plus la force de se lever. Si tu es aussi rapide et aussi malin que tu dis, c'est pour lui que tu dois aller chasser. » Alors le chat, tout heureux de montrer de quoi il était capable, est parti ventre à terre. Et il s'est jeté sur la première proie qu'il a trouvée. Il est revenu tout content avec un gros rat dans la gueule. « Tiens !» il a dit au chien. « Voilà pour ton maître. » Le chien, ça l'a mis en colère. Il a dit « Mais enfin, t'y connais rien, toi, aux humains. Les hommes, ça mange pas les rats. »« Ah bon ?» a dit Mimi. Il était tout penaud. Il était déçu. « Bah, c'est pas grave. Il est reparti de plus belle à la chasse. » Et il a trouvé très vite une belle proie. C'était un bébé merle qui était encore dans le nid. Mimi s'est préparée, il s'apprêtait à bondir sur le bébé merle quand la maman du petit Merle s'est mise à le supplier. « S'il te plaît, Mimi, ne tue pas mon bébé. Il est tellement jeune. Si tu as été gentil pour l'épargner, moi, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Et je te promets de faire tout ce que je peux pour t'aider. » Bon, vous commencez à connaître un peu Mimi, c'était pas son genre d'épargner un bébé merle sous prétexte qu'il était gentil. Il aurait bien dévoré carrément la mère et le bébé. Mais bon, comme c'était la nuit de Noël, il a décidé de laisser la vie sauve au bébé oiseau et il a dit à sa mère, voilà. Et il a dit à sa mère, voilà ce que tu vas faire pour me remercier. T'as qu'à appeler toutes les mouettes de l'île. Tu vas leur demander de s'élancer sur la mer et qu'elles pêchent chacune un poisson. Et ensuite, elles auront qu'à venir le livrer au-dessus de la petite maison de Teiki. Oh bah, la mère du bébé oiseau ne se l'est pas fait dire deux fois. Elle a filé dans le ciel et elle a averti tous les oiseaux de l'île. Teiki, lui, était bien triste devant sa maison. Il regardait le ciel. Il commençait à faire nuit. Il a vu les étoiles se lever dans la nuit de Noël. Il caressait son chien et il avait les yeux pleins de larmes. Mais voilà que tout à coup, il a vu un poisson tomber du ciel. Bah, ça alors. Et puis, voilà qu'il y en a un autre. Et puis un autre, et puis encore un autre. En fait, il pleuvait des poissons partout autour de la maison de Teiki. Teiki pleurait à chaudes larmes, mais cette fois, il pleurait de joie. Oh, « C'est le réveillon de Noël qui nous tombe du ciel !» il disait à son chien. Eh ben, j'aime autant vous dire qu'à ce réveillon-là, ils ont été trois à se régaler. Teiki, le plus pauvre des pêcheurs, son chien, le plus maigre des chiens, et Mimi, le plus laid des chats. Mais cette nuit-là, tous les trois, ils sont devenus aussi les meilleurs amis du monde. Et bien voilà, cette histoire s'appelait « Un Noël tombé du ciel ». C'est un conte de la tradition polynésienne. Voilà. Donc vous pouvez le trouver, si vous voulez le lire ou le lire à vos enfants, aux éditions des albums du Père Castor. Et puis maintenant, il ne va plus me rester qu'à vous donner rendez-vous pour la prochaine émission qui aura lieu... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Elle aura lieu... le jeudi 3 février à midi et elle sera précédée comme une fois par mois de Jeudi Jeu, votre chronique de l'actualité du jeu à 11h45. Je vais vous laisser sur une petite phrase, un petit proverbe cambodgien. La barque s'en va, mais la rive demeure.